Je déballe ma bibliothèque. Voilà. Elle n'est donc pas encore dressée sur les étagères. Le léger ennui du classement ne l'a pas encore enveloppée. Je ne peux non plus marcher le long de ces rangées pour les passer en revue, accompagnée d'auditeurs amis. Tout cela donc, vous n'avez pas à le redouter.
Me voici réduit à vous prier de vous transporter avec moi dans le désordre de caisses éventrées, dans une atmosphère saturée de poudre de bois, sur un sol jonché de papiers déchirés, au milieu de piles de volumes exhumés depuis peu à la lumière du jour, après 2 années d'obscurité, pour que d'entrée de jeu, vous partagiez un peu l'humeur, nullement élégiaque, mais au contraire impatiente, qu'ils éveillent chez l'authentique collectionneur.
Car c'en est un qui vous parle, et tout compte fait, uniquement de lui.
En ce qui me concerne, en tout cas, je vise dans ce qui suit quelque chose de moins voilé, de plus tangible. Ce qui me tient à cœur, c'est de vous permettre un regard sur la relation d'un collectionneur à ses richesses. Un regard sur l'acte de collectionner, plutôt que sur une collection.
Or, il est parfaitement arbitraire que je le fasse au moyen de considérations sur les divers modes d'acquisition des livres. Le recours à une telle disposition, ou à tout autre encore, n'est jamais qu'une digue contre le flot jaillissant de souvenirs qui déferle sur tout collectionneur s'occupant de son bien.
Toute passion, certes, confine au chaos. La passion du collectionneur, en ce qui la regarde, confine au chaos des souvenirs. Mais j'irai plus loin.
Le hasard, le destin, qui de leur couleur imprègne le passé sous mes yeux, il s'offre là en même temps au sens, à travers l'habituel fouillis de livres. Car ce genre de possession, qu'est-ce d'autre qu'un désordre où l'habitude s'est faite si familière qu'elle peut apparaître comme un ordre? Vous avez déjà entendu parler de gens que la perte de leur livre a rendu malade, et que d'autres que leur acquisition a rendu criminelle?
Tout ordre, dans ces domaines précisément, n'est qu'un état de suspens au-dessus de l'abîme.
Ainsi, l'existence du collectionneur est-elle régie par une tension dialectique entre les pôles de l'ordre et du désordre? Elle est naturellement liée à bien d'autres choses encore.
À une relation fort énigmatique envers la possession. Ensuite, à une relation envers les choses qui, loin de mettre au premier plan chez elles la valeur fonctionnelle, donc leur utilité, leur usage possible,
les étudie et les aime au contraire, comme la scène ou le théâtre de leur destin. C'est le plus profond enchantement du collectionneur que d'enclore l'exemplaire dans un cercle envoûté
où, parcouru de l'ultime frisson, celui d'avoir été acquis, il se pétrifie.
Tout ce qui relève là de la mémoire, de la pensée, de la conscience devient socle, cadre, reposoir, fermoir de sa possession. L'époque, le paysage, l'artisanat, le propriétaire dont provient le dit exemplaire, tout cela se rassemble aux yeux du vrai collectionneur en chacune de ses possessions pour composer une encyclopédie magique dont la quintessence n'est autre que le destin de son objet. Je n'exagère pas. Pour le vrai collectionneur, l'acquisition d'un livre ancien équivaut à sa renaissance.
Et en cela réside l'aspect enfant qui, chez les collectionneurs, se compénètre avec l'aspect vieillard. En effet, des enfants commandent le renouvellement des livres, comme à une praxis du multiplier, jamais à court.
Renouveler le monde,
c'est là l'instinct le plus profond dans le désir qu'éprouve le collectionneur d'acquérir de nouveaux objets.
Et voilà pourquoi le collectionneur de livres anciens se trouve plus près de la source de tout acte de collection que l'amateur de nouvelles éditions pour bibliophiles.
Mais quelques mots à présent sur la manière dont les livres franchissent le seuil d'une collection, tombent dans la propriété d'un collectionneur, bref, sur l'histoire de leur acquisition.
Parmi toutes les façons de se procurer des livres, la plus glorieuse, considère-t-on, est de les écrire soi-même. Maints d'entre vous se rappelleront ici avec plaisir la vaste bibliothèque que, dans sa pauvreté, le petit maître d'école Vuse, chez Jean-Paul, s'était constitué à la longue en écrivant lui-même, faute de pouvoir les acheter.
Les écrivains sont effectivement des gens qui écrivent des livres, non par pauvreté, mais par insatisfaction envers ceux qu'ils pourraient acheter, mais qui ne leur plaisent point.
Vous allez prendre en cela, mesdames et messieurs, pour une définition saugrenue de l'écrivain. Mais tout est saugrenu de ce qui se dit, sous l'angle de vue d'un collectionneur authentique. Parmi les modes d'acquisition les plus courants, celui qui convient le mieux pour les collectionneurs serait l'emprunt non suivi de restitution.
L'emprunteur de grande envergure, tel que nous l'envisageons ici, se révèle un collectionneur invétéré de livres, non seulement à cause de l'ardeur avec laquelle il veille sur le trésor amassé par emprunt, et fait la sourde oreille à toutes les mises en garde venant du quotidien de la vie juridique, mais encore et surtout du fait que lui non plus ne lit pas les livres.
Si vous voulez en croire mon expérience, il m'est souvent arrivé qu'on me rende à l'occasion un livre prêté plutôt qu'on ne l'ait lu. Ce serait alors, demanderez-vous, la marque propre des collectionneurs que de ne pas lire ? Voilà qui est nouveau. Eh bien non. Les experts vous confirmeront que c'est au contraire fort ancien.
Et vous avez lu tout ça, monsieur France ? Pas le dixième.
De la légitimité d'une telle attitude, au demeurant, j'ai fait la contre-épreuve.
Durant des années, soit un bon premier tiers de son existence jusqu'à maintenant, ma bibliothèque n'a pas consisté en plus de 2 ou 3 rangées, qui ne croissaient que 1 centimètre par an. Ce fut son époque martiale, puisque aucun livre n'avait le droit d'y pénétrer avant que je ne lui ai pris son mot d'ordre, que je ne l'ai lu.
Et je ne serai donc peut-être jamais parvenu à constituer ce qu'on peut appeler, au regard de la discussion, une bibliothèque, sans l'inflation qui, tout à coup, fit basculer l'accent mis sur les choses et mua les livres en valeur réelle, ou du moins en biens difficilement accessibles.
Bon, estimerez-vous,
après tant de déambulations en tous sens, nous devrions enfin déboucher en matière d'acquisition sur cette large rue qu'est l'achat.
Oui, une large rue, mais pas tranquille pour autant.
Mes plus mémorables achats, je les ai faits en voyage, tel un passant.
L'entrée en possession et l'avoir ressortissent au domaine de la tactique.
Les collectionneurs sont des individus pourvus d'instinct tactique.
D'après leur expérience, lorsqu'ils conquièrent une ville étrangère, le magasin de livres anciens, le plus minuscule, peut signifier un fort.
La papeterie la plus éloignée, une position clé.
Combien de villes ne se sont-elles pas ouvertes devant moi au cours des marches avec lesquelles je partais à la conquête de livres. Certes, seule une partie des achats les plus importants passe par la visite rendue à un commerçant.
Les catalogues jouent un rôle bien plus grand.
Et aussi parfaitement que l'acheteur connaisse le livre commandé de la sorte sur catalogue, l'exemplaire reçu reste toujours une surprise.
Et la commande garde toujours quelque chose d'un hasard.
On n'en a nullement fini
dans l'acquisition des livres
avec l'argent seul ou avec la compétence seule.
Et même les deux ensembles ne suffisent pas pour fonder une authentique bibliothèque
qui garde toujours quelque chose d'impénétrable et d'incomparable en même temps.
Pour acheter sur catalogue,
il faut encore avoir,
outre ce qu'on vient de nommer,
un flair subtil.
Les dates, les lieux, les formats, les propriétaires antérieurs, les reliures, etc.
Tout cela doit parler à l'acheteur.
Compte parmi les plus beaux souvenirs du collectionneur l'instant où il a bondi au secours d'un livre auquel il n'avait peut-être jamais consacré une pensée dans sa vie, à plus forte raison un souhait, parce que le livre en question restait ainsi délaissé, abandonné sur le marché libre et que lui l'achetait, comme dans les contes des Mille et Une Nuits, le prince peut acheter une belle esclave afin de lui donner la liberté.
Pour le collectionneur de livres, en effet, la vraie liberté de tous les livres se trouve quelque part sur ses propres rayons.
Tel un monument de mon expérience la plus excitante de vente aux enchères, se dresse aujourd'hui encore dans ma bibliothèque, au-dessus de longues rangées de volumes français, la peau de chagrin de Balzac.
Je voulais raconter l'histoire de son acquisition.
J'étais venue chez Émile Hirsch pour examiner la collection au préalable.
J'avais fait passer entre mes mains 40 ou 50 volumes.
Et celui-ci, en souhaitant ardemment ne plus jamais devoir le lâcher.
Vint le jour de la vente aux enchères. Un hasard voulut que dans l'ordre d'appel, cet exemplaire de la peau de chagrin fut précédé par la série complète de ses illustrations, en tiré à part, sur Chine. Les enchérisseurs étaient assis à une longue table. De biais, en face de moi, l'homme sur lequel convergèrent tous les regards dans la vente qui allait s'en suivre, le baron von Simolin, le fameux collectionneur munichois. Il s'intéressait à cette série, ne manquait pas de concurrents, bref, on en vint à une lutte sévère, dont le résultat fut l'offre la plus élevée de toute la vente, un prix dépassant largement 3000 Reichsmarks.
Apparemment, personne ne s'étant attendu à une telle somme,
un mouvement traversa les présents.
Émile Hirsch n'en prit pas note. Et soit pour épargner du temps,
soit pour d'autres considérations, il passa au numéro suivant, dans l'inattention générale de l'assemblée.
Il cria le prix.
Je montai un peu au-dessus, avec un énorme battement de cœur.
Et en ayant clairement conscience de ne pouvoir rivaliser avec aucun des grands collectionneurs présents.
Mais le commissaire priseur, sans contraindre l'attention de l'assemblée, procéda à l'adjudication avec les formules en usage.
Plus personne et trois coups de marteau.
En ce qui me concerne, ils me parurent séparés les uns des autres comme par une éternité.
Pour moi, étudiant, la somme était encore bien assez élevée. Mais la matinée du lendemain au Mont-de-Piété ne fait plus partie de l'histoire. Au lieu de cela, je préfère évoquer un événement que j'appellerais volontiers le négatif d'une vente aux enchères.
C'était donc à Berlin, l'année précédente. Proposé à la vente, une série de livres fort disparates quant à la qualité ou au sujet, parmi lesquels seuls méritaient l'attention quelques ouvrages rares ayant trait à l'occultisme et à la philosophie de la nature.
J'enchérissais sur certains d'entre eux, mais ne tardais pas à remarquer dans les premiers rangs, chaque fois que j'intervenais, un monsieur qui semblait n'attendre que mon offre pour lancer la sienne, à n'importe quel auteur. Après avoir vu suffisamment cette expérience se répéter, j'abandonnais tout espoir d'acquérir le livre auquel je tenais le plus ce jour-là. C'était les précieux Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers, fragments des œuvres posthumes d'un jeune physicien, que Johann Wilhelm Ritter avait publié en 1810 à Heidelberg en deux volumes.
À l'instant où on appela le numéro, me vint une illumination. Toute simple. Comme mon offre allait procurer infailliblement le numéro à l'autre, je pouvais n'en faire aucune. Prenant sur moi, je restais muet. Alors se produisit ce que j'avais espéré. Pas d'intérêt soulevé, pas d'offre, le livre fut retiré. Je jugeai bon de laisser passer quelques jours encore, et en effet, lorsque je réapparus au bout d'une semaine, je découvris le livre chez le libraire, et j'en tirai donc profit en l'acquérant du peu d'intérêt qu'on lui avait témoigné.
Que de souvenirs ne se pressent-ils pas? Une fois qu'on s'est rendu dans la montagne de caisses pour en extraire les livres, par une exploitation au jour, ou mieux, à la nuit tombée.
Rien ne saurait mieux illustrer le côté fascinant de ce déballage que la difficulté qu'on éprouve à s'arrêter.
J'avais commencé à midi, et il était bien minuit avant que j'aie entrepris les dernières caisses.
Mais voilà qu'à la fin me tombent entre les mains deux volumes cartonnés, mal en point, qui, à strictement parler, n'ont pas du tout leur place dans une caisse de livres. Deux albums de figurines en papier pressé
que ma mère avait collés quand j'étais enfant
et dont j'ai hérité.
Ce sont là les semences d'une collection de livres pour enfants qui, aujourd'hui encore, continue sans cesse à pousser, bien que ce ne soit plus dans mon jardin. Il n'existe pas de vivante bibliothèque qui n'héberge chez elle un certain nombre de créatures livresques venues de zones frontalières.
Ce ne seront pas forcément des albums de figurines ou des albums de famille, ni des autographes ou des reliures avec pendectes ou textes édifiants à l'intérieur. Certains collectionneurs s'attacheront aux tracts et aux prospectus. D'autres encore aux facsimilés de manuscrits ou aux doubles dactylographiés de livres introuvables. Et, à plus forte raison, les revues peuvent-elles former les bords prismatiques d'une bibliothèque.
Mais, pour revenir à ces albums, hériter est à vrai dire le plus solide moyen de parvenir à une collection.
Mais voici que minuit a sonné depuis longtemps devant la dernière caisse vidée à demi. D'autres pensées m'emplissent que celles dont j'ai parlé. Non, pas des pensées. Des images, des souvenirs. Souvenirs des villes où j'ai trouvé tant de choses. Riga.
Naples.
Munich.
Danzig. Moscou.
Florence.
Bâle.
Paris.
Souvenir des somptueuses salles munichoises de la librairie Rosenthal.
Souvenir du Stockton de Danzig, où habita le défunt Hans Rau.
De la cave aux livres moisis de Subin Gut, Berlin-Nord.
Souvenir des salles de séjour où prirent place ses livres.
De ma turne d'étudiant à Munich, de ma chambre à Berne.
De la solitude de Lisetwald sur le lac de Brins.
Et enfin de ma chambre de garçonnet, d'où proviennent juste encore 4 ou 5 des plusieurs milliers de volumes qui commencent à s'amonceler autour de moi.
Bonheur du collectionneur.
Bonheur de l'homme privé.
Car au-dedans de lui ont élu domicile des esprits, du moins des petits.
Qui font que pour le collectionneur, j'entends le vrai.
Le collectionneur tel qu'il doit être. La possession est la relation la plus profonde que l'on puisse entretenir avec les choses. Non qu'alors elle soit vivante en lui. C'est lui-même, au contraire, qui habite en elle.
Ainsi ai-je édifié devant vous un de ces réceptacles.
Dont les livres fournissent les pierres de construction.
Et le voici, à présent. Qui disparaît dedans.
Comme il est juste et bon